Bonjour à tous, nous nous retrouvons aux côtés de Sœur Catherine. Sœur Catherine est supérieure générale de la congrégation Notre-Dame de Fidélité. Elle est aussi supérieure ici de la communauté à Notre-Dame de la Délivrance. Vous allez nous expliquer un petit peu tout ça, nous expliquer le fonctionnement précis de votre lien avec la communauté ici, mais aussi avec toutes les communautés de la congrégation. Alors Sœur Catherine, est-ce que vous pouvez commencer par nous présenter la congrégation Notre-Dame de Fidélité.
La congrégation Notre-Dame de Fidélité a été fondée à la Délivrande en 1831, le 26 février, parce que la Délivrande, c'est un lieu marial. Il y a maintenant une basilique depuis 150 ans, mais c'est un ancien pèlerinage normand et l'histoire de la famille de la fondatrice est très liée à la Délivrande.
Alors vous-même, vous êtes ici, à la Maison Mère, donc à Notre-Dame de la Délivrande. C'est ici que toute l'histoire a commencé, autour de Mère Sainte-Marie. Qui était Mère Sainte-Marie ?
Henriette Le Forestier d'Heusville était normande, née à Rouen en 1803. Donc sa famille a vécu la Révolution française et avait une propriété à Gavrus. Et c'est à Gavrus, au sud de Caen, à côté d'Evrecy, qu'elle a rencontré en 1827 le père Solet, Louis Solet, qui était un prêtre diocésain, le premier chapelain des missionnaires de Notre-Dame de la Délivrande, une petite société de prêtres apostoliques fondée dans le cadre du diocèse pour accueillir les pèlerins qui arrivaient à la chapelle du pèlerinage. À cette époque-là, la basilique n'était pas construite. Et donc le père Louis Solet rencontrant Henriette, il était un peu plus âgé, il avait 35 ans, elle devait en avoir 28, lui a proposé d'être cette fondatrice, puisqu'il avait il songeait à créer quelque chose, une maison religieuse à la Délivrande. Et c'est elle qui lui dit « Mais monsieur, il n'y a rien à la Délivrande », et lui répond « Qu'importe, nous allons créer quelque chose ». Alors c'est une belle histoire telle que je la raconte tout de suite, mais c'est aussi une histoire assez douloureuse. Donc Henriette d'abord avait une mauvaise santé, elle avait des problèmes orthopédiques, elle souffrait d'une scoliose qui s'est aggravée au fil du temps. Et vers l'âge de 20 ans, elle a dû subir pendant 2 ans un traitement orthopédique à Paris, chez les Dames du Sacré-Cœur, comme on les appelait alors, dans les bâtiments de ce qui est l'actuel musée Rodin, sur le boulevard, le prolongement de Montparnasse. Donc c'est là qu'elle a rencontré la spiritualité ignatienne et qu'elle a commencé à avoir l'idée d'entrer en religion, pourquoi pas au Sacré-Cœur. C'est pourquoi quelques années plus tard, quand le père Solet lui dit « Et si nous créions quelque chose à la Délivrande ?», elle pensait d'abord au Sacré-Cœur. Et puis non, ça ne s'est pas arrangé. Et elle ont décidé de monter une maison pour des orphelines. Mais entre les deux, il y a encore un fait considéré comme miraculeux à l'époque. C'est en 1826, la sœur d'Henriette, Élisabeth de Jumillac, qui était très malade et qui sentait sa fin proche. La famille avait déjà perdu deux petits frères d'Henriette et puis une grande sœur. Donc la famille acquiesce à l'idée d'aller à la Délivrande en pèlerinage. Et pendant la messe, Élisabeth se trouve guérie, à tel point qu'elle peut se lever de son grabat et aller communier. Ce fait a été considéré comme totalement miraculeux, étant donné les moyens médicaux maigres de l'époque, et la famille décide d'aider Henriette à créer ce projet, de souscrire à l'idée du père Solet de fonder cette maison religieuse à la Délivrance. Enfin, c'est encore un peu plus compliqué que ce que je vous raconte.
À quoi ressemblait cette fondation ? Quelle était vraiment la situation ici de la congrégation au moment où elle a été fondée ?
Alors Sonia, vous êtes ici à l'endroit où on fait l'interview, dans l'ancienne maison, la maison de fondation, c'est-à-dire 2 pièces basses, 2 pièces hautes. Là, on est dans le bureau qui était aussi la chambre de la fondatrice et qui est maintenant donc le bureau de la mère générale. Mère Sainte-Marie, puisque c'est devenu très vite son nom de religieuse, Henriette Le Forestier d'Heusville, elle avait donc fait son noviciat, puisqu'il fallait tout de même une formation pour devenir religieuse, elle avait fait son noviciat à la Charité de Saint-Vigor, je crois que c'est un EHPAD maintenant, cette maison. Et elle est arrivée le 26 février 1831, accompagnée de sa tante qui était veuve et qui a accepté d'être religieuse avec elle, d'une de ses amies et puis de deux autres sœurs. Elles sont arrivées ici, donc le 26 février, dans cette première maison, notre maison de fondation, pour commencer à mener la vie conventuelle.
Dès sa création, la congrégation donc était apostolique, de spiritualité, vous l'avez dit, mariale et ignatienne, et son action porte sur l'éducation au sens large du terme.
Tout à fait. Mère Sainte-Marie se voulait mariale. D'ailleurs, sa vocation est née à la délivrante, la basilique est un pèlerinage marial. Elle était ignatienne depuis son traitement orthopédique à Paris, au Sacré-Cœur. Elle avait été accompagnée par un père jésuite du nom de Père Druillet. Et quand elle a fondé cette maison de la délivrante, initialement, c'était pour l'accueil des pauvres petites filles orphelines. Voilà le terme qu'on employait. Il y avait pas mal de structures qui existaient déjà pour l'éducation des garçons et des internats aussi. Donc, elle a pensé fonder quelque chose pour les pauvres petites filles orphelines. Et à l'époque, on ne parlait pas des sœurs de Notre-Dame de Fidélité ni même de la Vierge Fidèle. On parlait du monastère de la charité des orphelines de Marie de la Délivrande, dite de la Vierge Fidèle. Et ça a été abrégé en monastère de la Vierge Fidèle. Sachant que nous n'étions pas et nous ne sommes pas moniales, nous sommes des religieuses apostoliques, c'est-à-dire envoyées en activité parmi les laïcs dans la société actuelle, d'où les écoles. Au départ, en tout cas, c'était un orphelinat.
Et la force du charisme de la congrégation est fondée sur la certitude de l'appui de Marie, la Vierge fidèle, d'où aussi le nom de votre congrégation Notre-Dame de Fidélité.
Oui, ça se réfère à un événement de la vie de la fondatrice, le 15 août 1829, l'Assomption. Mère Sainte Marie, qui était encore Henriette à ce moment-là, était dans la chapelle du pèlerinage et ne voyait pas très bien comment les choses allaient pouvoir évoluer. Tout lui semblait si compliqué. Et à ce moment-là, elle, après les vêpres, elle sentit cette voix intérieure qui lui disait « Je suis la Vierge fidèle, ne crains pas, la fondation projetée aura lieu malgré 1000 obstacles ». Et je serai fidèle à tous ceux qui, dans cette maison, m'honoreront sous ce titre. Et ça, c'est vraiment une pierre de fondation. Spirituellement, la congrégation, elle est née à ce moment-là, même si institutionnellement, c'est 2 ans plus tard que les choses vont pouvoir se faire.
Effectivement, tout va se mettre en place petit à petit. Et ici aussi, au cœur de cette maison mère, les choses ont évolué. Et c'est même Mère Sainte-Marie qui souhaitait développer, qui a dessiné aussi, par exemple, l'église qu'elle souhaitait.
Là, vous faites allusion à la chapelle Lalique, cette célèbre chapelle qu'on vient visiter à travers le diocèse ou bien du pays ou de bien plus loin. Son idée, effectivement, c'était la gloire de Dieu. Ça, c'est quelque chose de très ignatien. La gloire de Dieu est le salut des âmes. Et la gloire de Dieu se manifestait à travers la création d'une chapelle qu'elle a voulu au centre du bâtiment, ce qui n'est pas extrêmement pratique pour nous aujourd'hui quand on a des visiteurs, parce qu'ils doivent traverser un certain nombre de cours et d'espaces avant d'arriver dans la chapelle. Mais c'est tout de même très intéressant de remarquer que c'est le Seigneur qui est au centre architectural des lieux, de telle manière que l'influence de Dieu, la force de Dieu, sa grâce, puisse influer, bien sûr, la vie des sœurs, des enseignants et des élèves, des gens que nous recevons dans la maison d'accueil, espace Caïré, etc.
Et l'achèvement donc de cette chapelle Lalique, qui est dédiée à la gloire de Dieu, comme vous le dites, mais aussi à la beauté de sa création, ne prit corps qu'au moment du centenaire de la congrégation en 1931.
Effectivement, l'interview me donne l'occasion de faire un grand saut dans le temps. Donc on passe de 1831 à 1931. René Lalique, qui était un ami de l'architecte qui avait travaillé à la, à la finalisation des travaux de cette chapelle, est venu probablement par un temps clair et ensoleillé, et il a compris que c'était dans l'espace de ce cœur qu'il pouvait réaliser son projet de verrière, ces célèbres verrières laliques, constituées de dalles de verre moulées, coulées, pressées, le cristal lalique, comme on l'appelle, à la fois mat et à certains endroits plus brillant, et qui permet un contraste entre les ombres et les lumières, et quelque chose de très très beau que bien des gens nous envient et viennent se recueillir et visiter.
Alors effectivement, puisque nous parlons de maison mère, c'est aussi parce qu'il y a plusieurs autres maisons. La congrégation a rayonné en Europe, mais aussi dans le monde. Est-ce que vous pouvez nous présenter la réalité de la congrégation aujourd'hui ?
Donc nous sommes à la maison mère et vous parliez de maison à l'extérieur de la France, oui, puisque les congrégations dites à supérieur général, elles ont leur maison mère forcément en un lieu, mais elles rayonnent dans d'autres endroits. Donc pour nous, ça a d'abord été les Antilles anglaises, où nous avons envoyé des sœurs en 1857, avec un jeune évêque originaire de Honfleur, Désiré Michel Vec, qui était vraiment un appui très fort, très spirituel pour la fondatrice. Ce pauvre est mort à 40 ans, il a été victime des fièvres là-bas, dans les Antilles, sur l'île de Roseau. Après cela, au XXe siècle, nous avons pu développer une mission en Guinée-Conakry, à Kindia, entre 1953 et 1967, puis on a été chassés par les événements politiques, et c'est seulement à partir de 1969 que nous sommes partis au Zaïre, Congo-Kinshasa, où nous sommes restés 30 ans. Alors vous allez me dire, après l'an 2000, où en êtes-vous de ces missions, comme on disait alors ? Aujourd'hui, ce ne sont plus des missions, ce sont des partenariats, moins avec le Congo-Kinshasa, mais toujours avec le Burkina Faso, Ouagadougou. Notre amie Lucienne Zuma, qui est laïque consacrée de la congrégation, et à Kindia, donc en Guinée-Conakry, nous gardons un partenariat pédagogique. Ça, c'est vraiment le charisme éducatif qui continue vivement de se déployer là-bas. Ce sont des enseignants et chefs d'établissement français qui partent en équipe au mois de février, généralement, transmettre des méthodes de formation aux instituteurs et enseignants de la paroisse Sainte-Croix de Kindia.
Un grand merci à vous, sœur Catherine, et nous nous retrouverons très prochainement pour continuer de découvrir un petit peu mieux la congrégation Notre-Dame de Fidélité. Merci pour votre accueil, à bientôt.
Merci, au revoir.